Chapitre 33. 2 octobre 1998, 14h40. Concorde. Changement. Marc rangea machinalement le cahier dans le sac. La fille souriante avec la guitare sur le dos descendit aussi. Ils marchèrent côte à côte dans le couloir, se touchant presque, gênés, comme lorsqu'on se retrouve dans l'intimité d'un ascenseur avec un inconnu. Sur le sol froid du couloir, une femme recroquevillée sur elle-même semblait prier un quelconque dieu des enfers. Pas d'enfant, pas d'animal, pas de musique, pas de carton déchiré, ni message, ni explication. Juste un visage invisible, enfoui entre deux genoux et une assiette blanche. Vide. La foule se détournait de la mendiante, l'évitait, l'enjambait. Sans même réfléchir, sans même ralentir, Marc glissa une pièce de sa poche dans la soucoupe. La fille à la guitare tourna vers lui un regard surpris, le genre de regard signifiant que Marc venait à ses yeux de passer brusquement du statut de « jeune con pressé qui fait la gueule dans le métro » à celui de « garçon beaucoup plus intéressant qu'il n'en a l'air mais qui, hélas, ne remarque rien ». Quelques mètres plus loin, le couloir se scindait en deux. Marc tourna à droite, ligne 12, direction porte de la chapelle, toujours perdu dans ses pensées. La fille à la guitare s'engagea à gauche, ligne 7, direction la Courneuve, ralentissant juste un peu pour regarder s'éloigner ce joli grand blond mélancolique. Madeleine. On s'approchait de l'une des gares les plus fréquentées de Paris. Ce n'était pas l'heure de pointe, mais presque. La foule sur les quais et dans les voitures se densifia brusquement. Impossible de lire dans ces conditions. Saint-Lazare. La voiture se vida à une vitesse vertigineuse. Marc regardait toujours avec étonnement la course des voyageurs dans les couloirs de la gare Saint-Lazare. Ces gens qui sprintaient, bousculant les moins rapides, négligeant les escalators bondés pour gravir 4 à 4 les escaliers délaissés, accélérant encore dès qu'un tunnel long et rectiligne le permettait. Ces gens entamaient-ils cette course contre la montre à cause d'une urgence exceptionnelle ? Ou bien couraient-ils ainsi tous les jours, matin et soir, tout simplement par habitude, comme d'autres font leur jogging sous les platanes ? Il avait lu, il y a peu, l'histoire de ce type, l'un des plus grands violonistes au monde, un nom russe qu'il n'avait pas retenu, qui, un beau jour, pendant plusieurs heures, s'était installé pour jouer dans un hall de métro. Sans affiche, sans annonce officielle, il s'était juste planté anonymement dans le couloir et avait sorti son violon. Alors que tous les soirs il remplissait les salles du monde entier, alors que les places pour obtenir le privilège de l'écouter s'arrachaient à des centaines de francs, ce jour-là, personne ou presque dans le couloir du métro ne s'arrêta pour l'écouter. Tous ces types cravatés n'avaient même pas ralenti en passant devant lui et avaient couru vers leur train et... peut-être le soir même, ou le week-end, avait-il couru encore pour arriver dans les temps au concert d'un musicien réputé qu'il ne fallait rater à aucun prix. Marc, pour la première fois depuis le début de la journée, s'offrit un peu de répit. Il marcha tranquillement jusqu'à la salle des pas perdus. Des milliers de personnes attendaient dans l'immense hall de gare, debout, immobiles, les yeux au ciel, telle une foule attendant devant la scène l'entrée d'une rockstar planétaire. Sauf que les voyageurs ne fixaient pas les spotlights, mais les écrans lumineux indiquant le quai des trains, ou plutôt, ne l'indiquant pas assez tôt, et les voyageurs s'entassaient, plus serrés à chaque minute. Le corail Paris-Rouen faisait partie des trains dont les quais n'étaient pas encore annoncés. Marc traversa tout le hall, se faufilant au milieu de la forêt de navetteurs pétrifiés et s'installa à la terrasse du buffet de la gare. Il commanda un jus d'orange à un serveur agité qu'il l'encaissa tout de suite, comme si le jeune homme allait fuir, le verre à la main. Marc attrapa son téléphone. Son répit n'avait été qu'éphémère. Il jura un bordel de merde qui se perdit dans le brouhaha de la gare. Lily avait appelé. Évidemment, l'appel était parvenu pendant qu'il était sous terre. À croire que Lily le suivait, pas à pas, dans Paris, et attendait qu'il s'enfonce dans les couloirs souterrains pour lui laisser des messages, sans lui parler. Marc jongla avec les touches. Il porta le téléphone jusqu'à son oreille pour écouter le message. Il était à peine audible. Lily chuchotait plus qu'elle ne parlait.
Marc, c'est Emily. Mon Dieu, qu'es-tu allé faire chez les Carville? Fais-moi confiance, Marc. Demain, tout sera terminé. Je t'expliquerai alors. Je t'expliquerai tout. Si tu m'aimes autant que tu le dis, tu me pardonneras.
Marc demeura un instant immobile, le téléphone toujours collé à son oreille. Faire confiance. Pardonner. Attendre. Jamais de la vie. Lily lui dissimulait quelque chose. Tout allait se jouer dans les heures qui venaient. Ce fameux voyage sans retour que lui seul pouvait empêcher. Marc joua sur les touches et écouta à nouveau le message de Lily. Un détail l'intriguait.
Marc, c'est Emily.
Il appuya l'écouteur sur son oreille droite et se boucha l'autre avec un doigt. Il avait besoin d'entendre distinctement, ce qui se révéla particulièrement compliqué dans cette gare bondée.
Tu me pardonneras.
Marc joua à nouveau sur les touches et écouta une troisième fois le message. Il ne s'intéressait plus aux paroles de Lily, mais à ce qu'il entendait derrière. Le son était un peu lointain, un peu sourd, mais à la troisième audition, il était presque sûr de lui. Par précaution, il écouta toutefois une dernière fois le message. Derrière la voix de Lily, il entendait distinctement le bruit de plusieurs sirènes d'ambulance. Marc rangea le téléphone dans sa poche et but la moitié de son jus d'orange tout en essayant de réfléchir. Il ne voyait que deux explications possibles. Soit Lily se trouvait à proximité du lieu d'un accident, dans la rue ou ailleurs, soit elle se trouvait devant un hôpital ou une clinique. Dans tous les cas, il s'agissait d'un indice, le premier. Marc vida son verre et continua de raisonner. Rechercher le lieu où venait de se produire un accident dans Paris était stupide. Le lieu de l'accident, un carrefour, un coin de rue, serait dégagé rapidement. Lily n'allait pas rester sur place, il serait impossible de la retrouver ainsi. Par contre, si on retenait l'hypothèse d'un hôpital, on se retrouvait sans doute face à plusieurs dizaines d'adresses dans Paris, mais c'était sa seule piste. Marc reposa son verre vide sur la table d'aluminium. Le serveur se précipita pour débarrasser, comme pour signifier à Marc que le temps de stationnement dans le bar était limité. Marc ne réagit pas. Une autre question le hantait. Pourquoi un hôpital? Que venait y faire Lily? La première image qui lui vint fut celle de Lily blessée. On l'emmenait en urgence au bloc opératoire, un essaim d'infirmiers en blouse autour d'elle. Le grand voyage. Elle avait tenté de se suicider. Elle n'avait pas attendu le lendemain. Que faire? Le cœur de Marc battait à tout rompre. Appeler toutes les cliniques, tous les hôpitaux de Paris, pourquoi pas après tout? Marc téléphona pour la troisième fois de la journée à Jennifer, sa collègue de France Télécom. Elle lui transmit avec empressement, par interminable série de 18 SMS, la liste des numéros de téléphone qu'il souhaitait. 158 cliniques et hôpitaux dans Paris intramuros. Rien que ça. Pendant plus d'une demi-heure, Marc joua les standardistes, avec toujours le même rituel. « Bonjour madame, une jeune fille du nom d'Émilie Vitral a-t-elle été admise chez vous aujourd'hui ?»« Non, je ne sais pas dans quel service. »« Les urgences peut-être ?» Chaque appel prenait entre quelques secondes et quelques minutes. La réponse était toujours la même, à quelques variantes près. « Non monsieur, nous n'avons personne de ce nom. » Vous êtes bien certain de son identité ? Marc s'arrêta au 20e numéro de la liste. Téléphoner aux 158 adresses allait lui prendre un temps infini. Il avait conscience de perdre de précieuses heures à la poursuite d'un indice bien mince, quelques sirènes d'ambulance. Elles auraient aussi bien pu passer en trombe dans n'importe quelle rue au moment où Lily l'appelait. Le serveur était déjà venu trois fois lui demander s'il souhaitait autre chose. Marc avait recommandé un jus d'orange, sans conviction, juste pour le faire patienter. Il n'y avait pas touché. Était-ce ce qu'avait ressenti Crédule Grand-Duc toutes ces années ? Suivre jusqu'à l'obsession une direction qu'on sait fausse dès le départ ? S'accrocher à la flamme d'une allumette un soir de tempête ? Marc leva les yeux vers le panneau d'affichage des trains au départ. Toujours rien indiqué pour le Rouen-Paris. Tout allait trop vite, pensa-t-il, beaucoup trop vite. Ces bruits de sirène, cette enveloppe bleue dans sa poche, qu'après tout, il n'avait qu'à ouvrir en dépit des recommandations de Mathilde de Carville et de la promesse faite à Nicole. Et ce cahier, ces confidences de grand-duc, ce mauvais suspense qu'il entretenait et qu'il l'avait piégé. Marc vida d'un trait son second jus d'orange. Le serveur se précipita, armé d'un torchon pour essuyer la table, esquissant presque un sourire de soulagement. Comme pour le narguer, Marc sortit le cahier vert. Journal de Crédule Grand-Duc. En 1987, la gourmette avait atteint la somme de 75 000 francs. Vous imaginez ? Une fortune à l'époque, même pour un bijou de chez Tournaire. Mon enquête, elle, devenait franchement morose. Aucune piste nouvelle. Je me contentais de labourer les anciennes, de lire et de relire 10 fois les mêmes dossiers. J'effectuais quelques séjours en Turquie pour la forme. L'hôtel Ascoc, la Corne d'Or, les marchands de tapis, le Crépuscule sur le Beaufort, tout le Lily's Mystery Tour, suivez le guide. Je revisitais le Québec également, Chicoutimi, chez les Berniers, une fois, par moins 15 degrés, pour rien. J'étais retourné à Dieppe aussi, 2 fois, je crois, dont une avec Nazim. Ce sont les bons souvenirs, ceux-là. Je les raconte un peu pour ça. Un peu aussi, parce qu'il est important que vous compreniez, pour Lily, sa psychologie, je veux dire, son environnement, le déterminisme, l'acquis et l'inné, toutes ces foutaises. Je vous donne les détails pour que vous puissiez juger par vous-même. C'est important si vous voulez vous faire votre propre opinion. C'était en mars 1987. Il faisait un temps terrible. D'après ce que nous avait dit Nicole Vitral, la pluie et le vent à plus de 75 km/h sur Dieppe n'avaient pas cessé depuis 15 jours. Il n'y avait pas un chat sur le front de mer. Nicole toussait à chaque fin de phrase, ses poumons la torturaient au moindre effort. Nazim était heureux. Il aimait bien venir à Dieppe. Il aimait bien la pluie. Il aimait bien Marc aussi, même si le gosse avait un peu peur de lui. Nazim n'avait pas de gosse, pas plus que moi. Mais lui avait une femme au moins. La belle Ayla, avec ses formes aussi rondes que ses kebabs. Nazim forcément supportait l'équipe turque de football. Marc se moquait de lui. Quelques années auparavant, l'équipe de Turquie, pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde 86, avait perdu 8-0 contre l'Angleterre. Un score de baby-foot, rigolait Marc. Nazim voulut montrer à Marc qu'il n'était pas rancunier. Il lui avait apporté un maillot de Dündar Seas, l'ailier gauche de Galatasaray, le quartier gaulois d'Istanbul. Le nom de Dündar Seas ne vous dit sûrement rien. Essayez de le traduire en français. Vous y êtes ? Didier Six. Le joueur français avait dû prendre la nationalité turque pour pouvoir emmener Galatasaray au titre de champion l'année suivante. Didier Six. Comment peut-on avoir pour idole Didier Six ? Un type qui a fait toute sa vie la même feinte. Faux départ sur l'aile et crochet intérieur. Un type qui, surtout, a tiré dans les bras du gardien son pénalty à Séville en 1982, en demi-finale de la Coupe du Monde, contre l'Allemagne. Il jouait à Stuttgart à l'époque, ce vendu. On en a fusillé pour moins que ça. Et voilà que Nazim, 5 ans plus tard, ne trouvait rien de mieux que de ramener à Marc un maillot de Dündar Seas. Le maillot d'un traître vivant en exil sous un faux nom. Bel exemple pour la jeunesse. Marc, jeune et naïf, enfila le maillot sans se poser de questions. Normal, il n'avait pas connu 82, la nuit de Séville, le traumatisme d'une génération entière. La petite Émilie, elle, s'en fichait. Ce jour de mars 1987, elle bravait le vent et la pluie. Elle avait enfilé un ciré mauve fluo avec une capuche qui lui bouffait le visage, d'où seuls des cheveux blonds dépassaient. Elle portait des bottes de la même couleur et sautait dans les flaques du caniveau de la rue Pochol. Elle courait après les chats. Nicole, presque émue aux larmes, m'avait expliqué pourquoi. Émilie avait 7 ans. 6 mois de CP, savait lire et dévorait déjà les contes du chat perché de Marcel Aimé. Les contes rouges, Delphine et Marinette, les animaux de la ferme qui parlent. « Les contes du chat perché », me disait Nicole, me prenant à témoin, « à 7 ans, en CP. Crédule, vous vous rendez compte ?» Il devait y avoir moins de 20 bouquins dans leur petite maison de pêcheurs, et celui-ci était le seul livre pour enfants. « Quel rapport avec les chats du quartier, me direz-vous »« J'y viens. » Émilie avait adoré l'histoire du chat de la ferme, qui, pour emmerder le monde, passait tous les jours lors de sa toilette sa patte derrière son oreille, attirant immanquablement la pluie pour le lendemain. Des semaines de déluge par la seule faute de l'humeur du chat et de son mauvais caractère, jusqu'à ce que les fermiers décident de se débarrasser du chat, et que Delphine et Marinette le sauvent in extremis. Déduction logique pour Émilie, si le déluge s'était abattu sur Dieppe depuis 15 jours, pluie, vent, grêle et galets volants, c'était la faute des chats du quartier, qui devaient eux aussi passer leurs pattes derrière leur oreille. Une seule solution s'imposait, convaincre les chats du quartier de se laver autrement. Tous les chats du Pollet. Vous imaginez, un quartier de pêcheurs. Émilie passait des heures à les approcher, les apprivoiser, leur expliquer doucement qu'à cause d'eux, sa grand-mère, Nicole, ne pouvait pas travailler. Qu'eux aussi, qui aimaient tant le soleil, ne pouvaient pas sortir dehors pour se faire dorer sur le goudron. Émilie avait essayé de m'entraîner, ainsi que Nazim, dehors sous la pluie pour attraper les chats, pour leur faire peur. Il y en avait qui ne l'écoutaient pas, les sauvages surtout.
« Allez, viens, crédule la bascule. Allez, suis-moi, moustache !»
Elle nous tirait de sa petite main. Les gouttes coulaient encore le long de son ciré. Nazim éclatait d'un gros rire, mais restait au sec devant un café. Moi aussi. Seul Marc, du haut de ses 8 ans, finissait par céder, par sortir sous la pluie battante. Le maillot turc de Didier Six, trop grand, enfilait par-dessus son manteau marron, trempé, presque transparent. Aussi transparent que Dundar Six, isolé sur l'aile gauche au Parc des Princes. Je vous lasse peut-être avec mes souvenirs dégoulinants. Je comprends. C'est l'enquête qui vous intéresse. Rien que l'enquête. J'y viens. Je n'avais pas renoncé, malgré tout. Vous verrez, vous n'allez pas être déçus. Le 22 décembre 1987, comme chaque année, je me rendis à mon pèlerinage du Mont Terrible. J'arrivais le soir sur les bords du Doubs pour poser mes bagages. J'avais déjà mes habitudes de vieux garçon. La patronne, Monique Genvèze, une femme un peu forte et adorable, à l'accent franc-comtois si marqué qu'il me rappelait presque celui des Québécois, me réservait toujours la même chambre, la 12, avec vue sur le Mont Terrible, et me faisait mûrir un bon mois à l'avance la cancoyotte qu'elle me servait avec un vin d'Arbois. L'enquête s'enlisait, je creusais ma névrose déjà, j'avais bien droit à quelques compensations. Ce jour-là, donc, Monique, qui me guettait au bout du chemin, ne me laissa même pas le temps de garer ma voiture.
« Oh, monsieur Grand-Duc, il y a quelqu'un pour vous ?»
Je la regardais stupéfait. Elle insista.
« Il est là depuis 2 heures. Il a téléphoné plusieurs fois le mois dernier et il voulait vous voir. Je lui ai dit que vous arriveriez comme tous les ans le 22 décembre dans l'après-midi. Je crois que c'est rapport à votre enquête. »
Monique avait gloussé devant moi comme Miss Money Penny face à James Bond. Étonné, excité, j'entrai rapidement dans le salon. Un homme, la cinquantaine entretenue, portant un long manteau d'hiver sombre, m'attendait en lisant des prospectus sur la région. Il se leva vers moi.
Augustin Pelletier, cela fait des mois que je souhaite vous rencontrer, monsieur Grand-Duc. Je suis tombé par hasard sur vos petites annonces dans l'Est républicain. Je pensais que toute l'enquête sur l'accident du Mont Terrible était bouclée depuis longtemps, mais apparemment vous cherchez encore. Vous allez peut-être pouvoir m'aider.
C'était plutôt le contraire que j'attendais. De l'aide de sa part. Mais bon, Augustin Pelletier m'avait l'air d'un homme équilibré. Le genre cadre d'entreprise, décidé, au sens des responsabilités précis. Pas un affabulateur. Je m'installai à côté de lui dans le hall du gîte.
De la baie vitrée, on pouvait admirer toute la ligne de crête, dont le Mont Terrible, pas encore enneigé cette année. « Mais je vais faire mon possible, monsieur Pelletier. Vous me surprenez. Bon, c'est une vieille histoire, monsieur Grand-Duc. Je vais aller au plus court. Je suis à la recherche de mon frère, Georges. Georges Pelletier. Il a disparu depuis des années, maintenant. La dernière trace que j'ai de lui remonte à décembre 1980. À cette époque, il vivait en ermite sur le Mont Terrible, dans une petite cabane, pas très loin de l'endroit où s'est produit le crash de l'Airbus. »